Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex.
Ecorex, Abdou Diouf Junior.
Ecorex entre Nouakchott et Dakar ce matin. Dans la capitale mauritanienne s'est tenu le deuxième dialogue parlementaire de haut niveau entre les deux pays sur le projet gazier GTIA avec le soutien d'Oxfam et de OCDEA. On en parle dans Ecorex. On parle également dans un entretien avec Eliman Kane, président de l'Ex-Africa, des contributions des organisations de la société civile pour une gouvernance responsable et écologique du pétrole et du gaz au Sénégal. C'est dans Ecorex et c'est tout de suite.
L'entretien dans Ecorex.
Eliman Kane, bonjour.
Bonjour Abdou.
Président de l'Ex-Africa, leadership éthique, gouvernance, stratégie en Afrique, l'Ex-Africa. Vous venez de boucler une série de webinaires et d'ateliers à travers lesquels vous discutiez de la nécessité de partager vos expériences, mais également vos connaissances sur la gestion optimale et la bonne gouvernance des ressources naturelles, des ressources minérales au Sénégal, le pétrole et les mines. Est-ce que le public, votre public, a pu saisir ce que vous voulez concrètement faire ressortir à travers ces activités?
Oui, je pense qu'on a quand même réussi d'installer un débat qui jusque-là n'était pas vraiment abordé dans ce sens-là, à savoir re-questionner nos choix politiques en termes d'exploitation de ces ressources, le pétrole et le gaz. Parce que depuis que des annonces ont été faites, tout le monde, presque tous les acteurs, aussi bien du côté public que privé, même dans la société civile, ont vu l'aspect uniquement manne financière qui nous tombe dessus et qui va changer le Sénégal.
Mais vous avez mis l'accent sur les conséquences que tout cela peut avoir l'exploitation.
Oui, au-delà même des conséquences. Enfin, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre une réflexion qui d'abord interroge les opportunités réelles, effectives que présentent ces découvertes, mais également quels sont les véritables défis pour que ces opportunités puissent véritablement se réaliser et se transformer en capacité de transformation de notre économie, mais tout en sauvegardant le bien-être et le cadre de vie des Sénégalais et l'environnement. Ensuite, on a interrogé avec des études poussées qui ont été faites par des institutions partenaires les actifs du Sénégal. Surtout par rapport au contexte de la pandémie COVID-19 qui a quand même eu ses effets, mais également dans le contexte de la transition énergétique et où on se rend compte que les comportements des acteurs sont en train de changer. Déjà, les pays qui consommaient l'énergie fossile, même si les financements ont augmenté objectivement, mais ces pays ont des stratégies qui ont tendance à diminuer et à aller vers les énergies renouvelables, mais également les entreprises, plus même les majors, sont en train également de revoir leur stratégie pour aller vers les énergies renouvelables. Et comme vous le savez, à l'issue de COP26, la conférence qui s'est tenue à Glasgow les deux semaines passées, alors il y a aujourd'hui au moins 22 États qui ont démarré en 2012 d'arrêter tout ce qui est financement qui va vers ces énergies fossiles-là, notamment le pétrole, le gaz, le carbone, etc.
Ça vous inquiète ou ça vous réconforte dans votre idée selon laquelle il faut mettre l'accent sur les énergies renouvelables?
Alors, ça nous réconforte, nous, parce que déjà, on avait des doutes sur la viabilité même du projet de décision sénégalaise d'exploiter les ressources. Parce que sur plusieurs plans, nous avons dit ça depuis longtemps, nous ne sommes pas prêts. Aussi bien sur le plan de contrôle des contrats, sur le plan de l'optimisation des revenus qui sont générés, etc. Donc sur le plan du contrôle des coûts, sur le plan aussi du suivi des stratégies d'optimisation qu'utilisent ces grandes multinationales. Ça, on le dit depuis longtemps. Donc nous sommes réconfortés tout simplement dans cette perspective s'il y a autre chose qui peut nous dire, ben écoute, de toute façon, nous pouvons vivre et mieux vivre sans utiliser ces ressources. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à l'État du Sénégal, aux autorités, mais prudence. Soyez prudents. N'y allez pas pour signer d'autres décisions finales d'investissement. Il y en a déjà deux qui sont signées. C'est des engagements qu'il faut respecter. Mais il faut encadrer ça pour que les impacts ne puissent pas véritablement être trop négatifs pour nous. Parce qu'on ne le souhaite pas, mais s'il arrive des catastrophes, on n'a aucun moyen pour faire face. Et donc, ce sera plutôt une externalité négative, mais durable sur nos sociétés. Et donc, cette prudence, elle est de mise. Et donc, qu'on fasse attention aussi sur le reste. Je pense qu'on peut se réserver de continuer à permettre l'exploitation de ces ressources. Bon, voilà, même si le marché tel qu'il s'organise également ne garantit pas véritablement qu'on puisse avoir de nouveaux partenaires pour exploiter ces ressources.
On y est déjà. Vous avez entendu le directeur de BP Mauritanie dire qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour que le fausse gaz soit une réalité en 2023. Comment doit-on s'organiser?
Nous sommes pour une remise en question de tout cela. Il ne faut pas qu'il y ait un dialogue de sourds ou bien des discours unilatéraux. L'État dit oui, nous savons ce que nous faisons, nous avons nos propres données, etc. Bon, la société civile à côté disent attention, vous vous trompez, est-ce que vous pouvez penser à ça ou à ça? Ce qu'il faut, c'est un véritable dialogue constructif, un dialogue entre les acteurs de la société civile qui en connaissent quand même un pas de secteur et également les autorités qui ont en charge de gérer cette affaire-là pour au moins trouver des équilibres. Sinon, on agit sur la base d'ailleurs et sur la base de méconnaissance de beaucoup de facteurs qui interviennent dans la gouvernance du secteur, qui n'est pas seulement une affaire de géologie, ni une affaire donc de budget, etc., de fiscalité, mais c'est donc une affaire assez complexe et globale sur laquelle il faut faire beaucoup de prospection, c'est-à-dire essayer d'anticiper sur l'avenir. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, l'avenir, alors c'est les énergies renouvelables. Donc il faut cette discussion. Si ce que l'État dit pouvoir tirer de ces ressources peut être intelligemment utilisé pour préparer les ressources durables et y investir ce qu'il faut pour avoir une autonomie à ce niveau, on dit alléluia. Mais il ne faut pas continuer dans une perspective où on refuse de voir en fait les problèmes. Parce que c'est ça le problème. Ici, quand tu dis une chose qui est contraire à ce que les gens ont décidé de faire, on vous taxe de négatif, on vous taxe de jaloux. Alors que la vraie science, le vrai savoir émane justement de cette façon hétérodoxe de penser, comme on a vu aujourd'hui. Je pense que des vrais chercheurs ont montré, sur la base d'études de recherche, d'une véritable connaissance aguerrie, qu'il y a énormément de risques que nous sommes en train de courir et que nous devons être très, très prudents.
Très bien. Merci beaucoup, Eliman Ken.
C'est moi qui vous remercie, Abdou.
Président de l'Ex-Africa, Leadership, Éthique, Gouvernance, Stratégie en Afrique, c'était l'invité d'Ecorex. Merci.
Ecorex, Abdou Diouf Junior.
Le deuxième dialogue parlementaire de haut niveau entre la Mauritanie et le Sénégal sur le projet gazier GTIA a vécu à Nouakchott. Voici un résumé des discussions avec Demba Babelso, président du RGM, le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales.
Ce deuxième dialogue des deux réseaux que nous sommes, la société civile, des ONG, des représentants des différentes institutions concernées, de vulgariser ce qui a été décidé et accordé. Donc, depuis un an, effectivement, nos deux réseaux ont travaillé en commun. Et aujourd'hui, nous allons arrêter un programme commun de travail jusqu'à l'exploitation du puits. Ça nous rassure de savoir qu'on va démarrer en 2023 avec toutes les précautions prises, avec même des éventualités de où, au cas où, parce qu'on ne peut pas prévoir, ce qui n'est pas prévisible arriverait, qu'on puisse quand même prendre des mesures pour pouvoir commencer enfin à exploiter en commun ce puits de GTR. Au niveau de la Mauritanie, bon, ils ont même reconnu l'avance que nous aurions par rapport sur eux. Nous leur avons dit c'est comment on a pris les choses. On s'est même permis de leur donner des conseils pour travailler en harmonie. Parce que le contenu local ne sera que ce qu'en feront les concernés, les PME et les PMI. Le contenu local ira au-delà des espaces. Parce que l'exploitation peut cesser, vous savez, c'est dans le temps. Alors que le contenu local peut être pérenne. Les bénéfices issus des revenus peuvent servir et faire vivre le contenu local, mais à condition que ceux qui sont concernés par le contenu local soient conscients de la responsabilité pour s'approprier le contenu local. Il ne suffit pas de voter des choses, mais il suffit que ceux pour qui on vote ces choses-là s'en servent et en fassent bon usage.
La rencontre a pu se tenir avec le soutien de l'OCDEA, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, et Oxfam. Oxfam, justement, qui promet de poursuivre l'accompagnement des parlementaires pour un meilleur suivi des activités minières et pétrolières. Khar Ndiaye, directrice d'Oxfam Sénégal.
C'est un espoir que nous portons à accompagner des parlementaires de la Mauritanie et du Sénégal, de la société civile, mais également du secteur privé concerné. Effectivement, c'est la deuxième édition du dialogue parlementaire de haut niveau entre le Sénégal et la Mauritanie sur la gouvernance transparente et inclusive des ressources minérales de nos deux pays. Nous avons saisi l'opportunité l'année dernière avec la reprise de l'exploration du GTA d'initier un dialogue entre les acteurs clés que sont les parlementaires pour mission le suivi et le contrôle de l'action publique, de pouvoir nous assurer qu'ils étaient dotés des compétences, des connaissances et des techniques, méthodes ou outils qui leur sont favorables pour pouvoir exécuter de la meilleure manière qui soit leur mission de parlementaire. Nous l'avons déjà fait, nous le faisons depuis de nombreuses années déjà, faciliter le déplacement des parlementaires pour les amener dans les sites d'exploitation de ces ressources naturelles, les mettre en contact avec les communautés pour des discussions, pour échanger entre eux et s'assurer que la gouvernance de ces ressources-là sont faits de manière propice à ce que les populations locales en bénéficient. Nous le faisons depuis de très nombreuses années pour les parlementaires sénégalais et nous avons espéré qu'à travers ce genre de rencontres où Mauritaniens et Sénégalais peuvent faire un apprentissage de leur action, les Mauritaniens pourront bénéficier de l'expérience des parlementaires sénégalais pour pouvoir effectuer le même type d'action au niveau du Sénégal dans des domaines tels que le contenu local où le Sénégal semble être un peu en avance sur la Mauritanie. Et il semble que les députés mauritaniens sont actuellement dans la dynamique de pouvoir bénéficier des leçons tirées et des bonnes pratiques du Sénégal pour leur pays, la Mauritanie.
Khar Ndiaye, directrice d'Oxfam Sénégal, merci.
Les rendez-vous du secteur extractif dans Ecorex.
L'OCDEA, l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, organise la troisième édition de la table ronde sur la gouvernance des ressources minérales. Il sera question de discuter des défis et opportunités d'une gestion co-responsable de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Une table ronde prévue mardi 30 novembre prochain à Dakar.
Ecorex, Abdou Diouf Junior.
Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.